Bonjour, ok, donc on va se présenter nous-mêmes, pas de souci. Donc moi je suis Laurent Veillard, je suis membre d'un laboratoire qui est basé juste à côté, qui s'appelle ICAR, Interaction, Communication, Apprentissage, Représentation. Au sein de ce laboratoire, il y a une composante qui s'intéresse à tout ce qui est didactique des langues, des sciences et didactique professionnelle. Et je travaille dans cette composante. Et je travaille plus particulièrement sur les questions de formation professionnelle. Alors j'ai pas mal travaillé au niveau ingénieur, technicien, sur le problème d'alternance. Et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est bien évidemment pas d'ingénieur et de technicien, mais de CAP en lycée professionnel. Donc c'est un projet qu'on a initié le projet sur les lycées professionnels il y a un an et demi environ, hein, avec un groupe composé de chercheurs. Donc outre moi, il y a aussi une collègue qui s'appelle Patricia Lambert, qui travaille aussi dans mon laboratoire. Alors elle est plutôt dans une perspective sociolinguistique. Voilà, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis on a aussi avec nous un groupe d'enseignants qui sont soutenus par l'IFE, dont Vincent. Alors Vincent n'est pas enseignant, il est formateur, je laisserai se présenter. Et puis d'autres enseignants de l'académie qui travaillent avec nous sur ce projet. Tu veux dire deux mots sur qui tu es ?
Bonjour, donc Vincent Massard, je suis quand même enseignant en fait. Formateur, donc j'ai passé beaucoup de temps en lycée professionnel, une quinzaine d'années en lettres histoire. Et puis j'ai eu l'opportunité donc de commencer à faire de la formation et à intégrer l'UFM, bientôt SPE. Et à ce titre, du coup, appartenant aujourd'hui à Lyon 1. Donc quand Laurent a sollicité un groupe d'enseignants, de formateurs et de chercheurs autour d'un projet en lycée professionnel, j'ai répondu présent à la fois de par mon origine professionnelle. Tout ce qui touche au lycée professionnel continue à m'intéresser de façon très sérieuse. Et puis, étant amené à faire de la formation auprès de collègues en lycée professionnel, il me semblait intéressant de me positionner sur une recherche qui soit à l'articulation entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel. Voilà.
Bien, donc ce qu'on va essayer de vous proposer aujourd'hui, c'est des premiers résultats du travail qu'on est en train de mener. Alors je vais vous donner un petit peu la problématique, hein. Donc il faut vraiment voir ça comme des résultats intermédiaires qui posent des premières questions. Et il nous a semblé que c'était intéressant déjà de pouvoir les proposer à la formation. Mais ça, c'est vous qui allez nous dire si ça valait vraiment le coup ou pas. Alors, donc on a intitulé notre présentation « Analyse comparée des types de savoir et des processus didactiques dans trois contextes d'apprentissage en lycée professionnel ». C'est pas le titre que vous avez dans votre programme, c'est pas grave. On va parler, vous inquiétez pas, des écrits professionnels, hein, mais dans une perspective peut-être plus générale d'analyse didactique et langagière. Alors, la problématique qu'on voudrait vous proposer, je ne sais pas si on voit. Bon, c'est peut-être des choses que vous voyez, enfin que vous connaissez, hein. Moi, ça fait quelque temps déjà que je m'interroge sur une évolution. Alors, il faut vraiment prendre ça sur la longue perspective historique pour bien le comprendre, hein. De l'évolution de la façon dont on prépare des jeunes à des activités professionnelles, à des métiers. Et ça fait déjà pas mal de temps que je m'interroge sur finalement ce qu'on pourrait appeler une évolution historique vers une segmentation de nos formations en différents contextes d'apprentissage. Donc pour illustrer ça, je vous ai mis donc une annexe, hein, qui présente un petit peu les durées des différents enseignements en CAP. Et vous voyez donc sur ce graphique, il y a évidemment plein de disciplines qui apparaissent, mais ça vous paraît normal et naturel. Moi, ce qui me frappe, c'est, on va dire, ce découpage en différents enseignements. Tout n'apparaît pas encore là, puisque on a dans le groupe des enseignements professionnels, on a encore des sous-divisions avec le génie mécanique, la technologie et puis les séances d'atelier. On a parlé ce matin de l'accompagnement personnalisé, on a les enseignements généraux. Bref, on a des blocs d'enseignement, hein, bon, j'appelais ça des segments, que les élèves vont traverser dans la semaine, dans la journée, vont passer d'une heure de français à une heure de mathématiques, à une heure d'hygiène sécurité, etc. Et puis, bien évidemment, on a en plus, depuis quelques années, rajouté beaucoup de périodes de stage, si bien que on pourrait dire que les élèves, aujourd'hui, sont formés, non pas comme autrefois, dans un seul lieu et en un seul temps, qui était l'atelier de la production, mais sur des organisations, on va appeler ça des dispositifs différents. Et ça pose évidemment la question de la façon dont les élèves les traversent, la façon dont ils font des liens entre ces différents segments, la façon aussi dont les enseignants pensent les liens ou ne les pensent pas. Voilà. Donc on va essayer de travailler autour de cette question-là. Alors, juste pour vous, oui.
Juste une précision, donc ces documents-là seront accessibles sur le site. Oui. Donc prenez les notes en fonction de... Voilà, vous n'êtes pas tenu de tout attraper.
Alors juste pour vous montrer jusqu'à quel point ça peut aller, alors ça c'est plus votre domaine, c'est moi je travaille dans un IUT, un Institut Universitaire de Technologie, où on forme des techniciens supérieurs, donc l'IUT Lumière à l'Université Lyon 2. Ça c'est un diplôme qui s'appelle le DUT Qualité Logistique Industrielle Organisation. Vous avez là tous les intitulés de cours. Je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'il n'y en a pas loin d'une 70 de modules. Hein. Donc, nos sociétés divisent à l'extrême, on pourra dire, la répartition du travail de formation. C'est-à-dire qu'on a des spécialistes, alors dans ces cas-là, c'est de plus en plus pointu, des spécialistes de différents domaines de savoir qui vont créer des dispositifs spécifiques à leur domaine de savoir. Et donc, après, la question qui se pose, finalement, pour un élève... Quelles vont être les ruptures et les continuités à la fois sur les types de savoir, sur les modalités de transmission, sur les rôles qu'ils vont avoir à jouer dans chacun de ces dispositifs. Alors, certes, on sait bien que dans certains cas, on verra, les élèves sont plus actifs, dans d'autres cas, ils seront plus assis, etc. Ils peuvent avoir à prendre en charge plus ou moins grandement la production du savoir, ou au contraire, être davantage dans une logique de récepteur de connaissances, etc. Alors, quand on regarde un peu la littérature par rapport à ces problèmes, ces questions, à cette question-là, on y trouve quand même un certain écho du point de vue des difficultés que ça peut poser. Donc des problèmes que ça peut poser à des apprenants de passer d'un dispositif à un autre sur des laps de temps très courts. Il n'est pas rare qu'un élève, finalement, bascule dans 5 contextes différents, 5 dispositifs différents dans une même journée. Il va avoir un cours de français, un cours de mathématiques d'une heure, un cours de génie mécanique, etc. Donc la première question que ça va poser, en particulier pour le type de public qu'on va retrouver dans les lycées professionnels, c'est quelle capacité d'adaptation à des contextes, des modalités d'apprentissage et des rôles changeants. Quelle capacité pour des élèves qui sont souvent en difficulté, hein, à reconnaître des contenus et des règles du jeu didactique qui peuvent être plus ou moins explicites et largement implicites dans d'autres cas. On sait par certains travaux, comme ceux de Rochex par exemple, hein, que plus une pédagogie est implicite, plus elle est défavorable à des publics populaires qui ont déjà des difficultés scolaires, par exemple. Donc qu'est-ce que ça veut dire que de changer 5 fois les règles du jeu dans une même journée ? La deuxième source de littérature qui nous interroge sur ces organisations de formation, c'est celle sur le transfert de connaissances. Ça fait un siècle qu'on fait des études sur le transfert de connaissances pour essayer de comprendre si quand on a appris quelque chose dans un certain contexte donné, on est capable et à même de le transférer dans un contexte différent. Et toutes les études montrent que c'est un processus très compliqué pour les individus. On a généralement 20 à 30% de réussite de taux de transfert. Donc là, ça pose aussi la question de la façon dont les élèves vont être capables, quand ils reçoivent un cours, par exemple, en génie mécanique, ils sont censés le réinvestir à l'atelier. Qu'est-ce qui va faire que ces réinvestissements soient réussis, possibles, etc. Et puis deuxième chose, c'est que l'émiettement de la transmission dans différents contextes aboutit à la fin à un challenge pour l'élève. Il s'agit de configurer, organiser, structurer ses connaissances pour en faire des compétences qui seront opérationnelles sur le terrain. Donc qu'est-ce qui va aider les individus, les élèves à produire ces synthèses, ces structurations, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de facteurs dans l'organisation de la formation qui vont aider, ou au contraire qui vont être défavorables. Alors, c'est à partir de ce genre de questions qu'on a, on s'est mis en quête d'un terrain, et on a décidé de s'intéresser, donc, enfin, on a cherché, hein, et on a trouvé un établissement qui acceptait de jouer le jeu avec nous, donc qui est un lycée préparant au métier de l'automobile, qui prépare au bac professionnel et au CAP, hein, dans différents domaines, comme la maintenance des véhicules automobiles ou des véhicules industriels, etc., avec une idée de développer un projet de recherche en deux composantes, hein, qu'on a pensé s'articuler plutôt bien. Une perspective didactique, c'est celle plus que je porte, et une perspective plutôt sociolinguistique. Et alors là, donc vous avez compris que notre idée, c'est de voir ce qui varie d'un contexte d'enseignement à l'autre et la façon dont les élèves gèrent ces transitions. Et donc l'idée, c'est de les envisager à la fois sous l'angle des variations didactiques, variété de savoir et de modalités de transmission, et variété langagière, à savoir, bien, est-ce qu'on parle pareil à l'atelier ou est-ce qu'on parle pareil en français, par exemple, hein? Et est-ce que, dans d'autres matières, on va encore parler différemment? Et quelles sont les exigences en termes de langage qu'on va avoir, de normes langagières qu'on va avoir d'un contexte à l'autre? Donc le dispositif, il fonctionne avec deux chercheurs, je vous en ai déjà un peu parlé, et 5 enseignants associés, hein, qui sont soutenus ici par des HSE à l'IFE, plus Vincent, parce qu'en fait, t'étais pas dans le total, toi. Donc ça fait 5 enseignants associés, et j'aurais dû mettre un formateur de l'UFM. Et notre idée, c'est à la fois de développer un volet de recherche, mais aussi de travailler avec les équipes localement pour, à partir des premiers résultats, et puis d'imaginer des choses qui pourraient aider à gérer ces transitions, etc. Alors déjà, voir si ça pose vraiment des problèmes, hein, parce qu'on pourrait aussi être optimiste en disant les élèves s'adaptent sans problème d'un contexte à l'autre, et puis ils font la synthèse à la fin. Bon, on est un petit peu quand même... Enfin, vu ce qu'on a vu dans la littérature, on pense que ça doit poser certains problèmes, quand même. Donc l'idée de construire des dispositifs innovants et de s'appuyer sur les opportunités qu'on peut avoir, comme par exemple ce qu'on a entendu ce matin sur les enseignements généraux appliqués à la spécialité. Alors après, une fois qu'on a été dans l'établissement, se poser la question de savoir, puisqu'on est plutôt nous dans des démarches qualitatives, hein, très qualitatives, de savoir comment on allait aborder la question. Donc on a déjà pris pas mal de temps pour comprendre un peu comment fonctionnait l'établissement. Et là, les enseignants nous ont beaucoup aidés. Et puis également, ensuite, s'est posé la question de savoir comment, à partir de quelles données, on allait pouvoir travailler. Et on s'est dit qu'une bonne façon de commencer le travail, c'était d'investiguer 3 contextes différents. Alors au début, on s'était dit, on va prendre une semaine de cours d'élèves, et déjà se poser la question, est-ce qu'on le faisait en bac professionnel, est-ce qu'on le faisait en CAP? Et puis on a discuté dans le groupe et on s'est dit que, d'une part parce qu'on n'était pas des très savants en mécanique automobile, on disait que le CAP était plus accessible pour nous, ça c'est la mauvaise raison. Une meilleure raison, c'était de se dire que, déjà, bon, il y a les recherches, il n'y en a pas énormément sur les lycées professionnels, mais il y en a vraiment pas beaucoup sur les CAP qui sont quand même des publics très relégués dans le système. Donc voilà, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de commencer par des CAP. Et donc l'idée, c'était d'essayer de les suivre, un groupe d'élèves, sur une semaine complète. Alors on n'a pas pu, pour des raisons diverses et variées, notamment que tous les enseignants n'étaient pas prêts à jouer le jeu d'ouvrir leur classe, parce que une idée qu'on avait, c'était notamment d'aller filmer ce qui se passait dans les classes. Donc c'est pas évident d'ouvrir sa classe, hein. Donc finalement, on a pu travailler à partir de trois contextes différents. Un cours de français, donc 2 fois 1 heure en français, hein, un cours de génie mécanique et un cours d'atelier dont vous avez vu que la durée évidemment est différente, puisque la séquence de français, c'est 2 fois 1 heure. La séance de génie mécanique, on n'a pris qu'une heure, mais c'était aussi une séquence de 2 fois 1 heure. Et puis, à l'atelier, bien sûr, c'est des journées entières. Et donc là, c'était 2 journées consécutives à 14 heures complètes. Voilà. Tu me dis, Vincent, si tu veux rajouter des choses. Alors, je vais être obligé d'un petit peu donner 2-3 éléments théoriques pour que vous compreniez là où on veut en venir. Ne vous inquiétez pas, on va pas non plus monter trop dans les hautes sphères. Alors, la première chose qui nous a semblé importante, enfin, qui m'a semblé importante, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut caractériser sur le plan théorique ce que j'ai appelé des contextes ou des segments là tout à l'heure. Et en recherchant un petit peu dans la littérature, il me semble que la notion de dispositif chez Foucault est intéressante, parce qu'il dit, alors pas appliqué dans ce contexte là mais ça a été repris après par des gens plutôt en didactique et pédagogie, qu'on peut considérer que le dispositif, ça a été une invention humaine qui a permis de mettre ensemble des éléments hétérogènes. Donc, par exemple, dans notre cas, des savoirs, des objets techniques, des discours, des espaces, des rôles sociaux, des institutions, avec une certaine fonction d'atteindre un certain objectif social. Donc, en l'occurrence ici, si on s'intéresse à un cours de français, Il s'agit bien d'un dispositif qui vise à transmettre certains types de savoirs, qui va mobiliser, on va le voir, un minimum d'objets techniques et d'objets symboliques, comme des documents, qui va générer des discours de la part des enseignants, enfin déjà des institutions, des enseignants, des élèves, qui va aussi articuler des rôles sociaux entre les producteurs des programmes, entre ceux qui les transmettent dans la classe, entre ceux qui reçoivent les connaissances et qui les coproduisent avec les enseignants. Et puis des institutions, parce que bien évidemment, on articule un lycée avec l'éducation nationale, enfin bref, tout un ensemble d'institutions. Donc il nous a semblé que, considérer qu'on avait affaire à, dans ce cas-là, des dispositifs didactiques qui sont constitutifs des formations professionnelles, c'était une façon intéressante de caractériser, de modéliser la formation professionnelle. Alors après, la question, c'était de se dire, si on veut travailler dans une logique un peu comparée, comment est-ce qu'on peut caractériser chacun de ces dispositifs? À partir de quels critères? Alors, la première chose qui paraît évidente, c'est que chacun a été construit pour transmettre des types de savoirs spécifiques. Donc on va s'intéresser à la nature et aux références, quand je parle de références, c'est-à-dire d'où viennent les savoirs qui sont transposés pour ensuite être enseignés. D'accord? Donc on verra que selon les disciplines, eh bien, les références, on a entendu des choses ce matin, culturelles, professionnelles, vont pas être les mêmes, et on verra comment ça fonctionne. La deuxième façon de caractériser les choses, alors là c'est peut-être un tout petit peu plus complexe, ça a été la reprise du travail, d'une partie du travail d'un sociologue qui s'appelle Basil Bernstein, et qui a travaillé longtemps sur les problématiques, alors sociolinguistiques déjà, mais moi c'est moins ça qui m'intéresse que ce qu'il a produit pour essayer de tenter de caractériser une sociologie des curriculums de formation. Alors qu'est-ce qu'on entend derrière ça? Ben c'est l'idée de s'intéresser à la façon dont les savoirs sont sélectionnés, apprêtés, mis en texte, et puis ensuite repris par les enseignants, et puis ensuite enseignés. Donc c'est toute cette logique-là, mais avec cette idée de regarder non pas simplement une seule discipline, mais de regarder globalement comment les différents savoirs se segmentent les uns par rapport aux autres. Alors Bernstein va dire se classifient, c'est-à-dire vont plus ou moins se rendre étanches à d'autres types de discours de connaissances. Donc je prends juste un exemple très rapide pour vous faire comprendre ça. Est-ce que l'enseignement général en français, par exemple, va être très autosuffisant à lui-même, ou est-ce qu'il va ouvrir des portes vers d'autres enseignements qui sont constitutifs du CAP, par exemple en maintenance des véhicules automobiles? Est-ce que ce discours de savoir-là va être très étanche ou poreux par rapport à d'autres discours qui vont être les savoirs de l'atelier, les savoirs du génie mécanique, les savoirs qui se transmettent dans les stages, etc. D'accord? Ça va? La deuxième chose qu'on peut aussi utiliser chez Bernstein, c'est la notion de cadrage, c'est-à-dire la façon dont ces savoirs qui ont été socialement apprêtés vont ensuite être mis en accès, comment est-ce que les élèves vont y accéder et comment les enseignants vont gérer cet accès aux élèves, d'accord ? Alors bien évidemment, ça va envoyer à des scénarios pédagogiques, des séquences, etc., des mises en situation. On va pouvoir caractériser en particulier le degré de contrôle que l'enseignant va avoir sur cet accès aux connaissances. Alors là aussi, pour illustrer un peu les choses, juste un petit exemple, soit on peut être sur un contrôle très très fort, c'est-à-dire qu'à chaque instant, l'enseignant, c'est lui qui détient les règles du jeu sur la façon dont les élèves accèdent au savoir. Donc typiquement, le cadrage le plus fort, quasiment, c'est le cours magistral, puisqu'à chaque fois que le savoir n'est accessible que par le biais du discours de l'enseignant. Donc c'est bien quand l'enseignant ouvre la bouche, à chaque moment, que le savoir est a priori accessible aux élèves. À l'inverse, une séance de TP où les élèves auront plus d'autonomie, on peut considérer qu'on aura un degré de cadrage moins fort. Alors vous verrez comment après on peut articuler ces notions de classification et de cadrage. Donc on va pouvoir dire que la classification est plus ou moins forte ou faible d'une discipline par rapport à l'autre, et le cadrage au sein de ces disciplines sera plus ou moins fort ou faible. Troisième façon de caractériser un petit peu ces contextes, c'est de s'intéresser, une fois que les enseignants ont conçu les séquences, au milieu qu'ils ont construit pour l'apprentissage, à savoir à l'organisation matérielle, sociale et didactique qui a été mise en place dans les situations pour produire des activités, des apprentissages. on va pouvoir considérer qu'il y a au moins deux niveaux d'analyse hein, pour ce milieu. Un niveau, on va dire, de surface, et vous verrez tout à l'heure des photographies qui nous permettront de travailler cette notion-là. Un niveau de surface où on va pouvoir repérer si l'organisation matérielle et sociale du travail dans la classe, eh bien, elle est plus ou moins similaire ou différente d'un contexte à l'autre. D'accord ? Bien, deuxième niveau, beaucoup plus caché, qui est souvent beaucoup plus implicite, c'est celui de l'organisation didactique, à savoir des finalités et types de savoirs en jeu, des modalités d'accès à ces savoirs. Est-ce qu'on va passer par de l'oral, de l'écrit, des gestes, de la manipulation d'objets, etc. D'accord ? Donc, deux niveaux qu'on regardera tout à l'heure sur ces trois contextes, français, génie mécanique et atelier, pour voir ce qui va varier du point de vue d'un contexte à l'autre. Des concepts comme classification et cadrage qui nous permettront de caractériser chaque enseignement du point de vue de son degré d'ouverture et de fermeture aux autres enseignements et de la façon dont varie, on va dire, le contrôle de l'enseignant sur la transmission des connaissances et puis, évidemment, donc la nature des savoirs en jeu dans chaque cas et les références qu'il peut y avoir derrière. Et tout ça pour arriver à cette idée que ce qui va nous intéresser, c'est de caractériser a priori ces contextes du point de vue objectif, à partir des critères que je vous ai donnés, mais aussi, et ça on en parlera moins aujourd'hui parce que c'est un pan du travail qu'on a tout juste commencé, de s'intéresser à la façon dont les élèves vivent eux-mêmes ces transitions, racontent comment ils les vivent, quoi. D'accord ? Et donc à partir de cette idée que on peut considérer que ces passages, ça peut être théorisé comme des transitions, donc on a un concept dans la littérature qui peut être intéressant pour ça, les transitions étant les différentes ruptures ou continuités que les élèves vont vivre sur le plan didactique, sur le plan cognitif, sur le plan identitaire, sur le plan social, sur le plan langagier, sur le plan émotionnel. Bref, un ensemble complexe de ruptures et de continuités. Certaines varieront, d'autres varieront pas, etc. Et à chaque fois, l'élève aura à s'adapter à chacun de ces contextes, à chacun de ces dispositifs. Alors, très rapidement, comment on a fonctionné sur le plan méthodologique ? Dans une première phase, on a fait ce qu'on appelle une analyse a priori, c'est-à-dire qu'on a voulu comprendre comment est-ce que chaque cours était structuré par les programmes, les enseignants, etc. Donc, on a fait le travail sur les trois cours, hein. Et on s'est appuyé là sur des sources variées, programmes, référentiels et autres documents prescripteurs, entretien avec les trois enseignants, notamment pour comprendre un peu comment ils ont fabriqué leurs cours, des enregistrements de plusieurs séances de classe, donc on va en reparler, et puis des documents pédagogiques qui étaient préparés pour chaque séance. Et donc l'analyse qu'on a produite dans ce cas-là, c'était donc sur les savoirs enseignés, hein, type, degré de classification, et des milieux a priori à travers les critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Et en essayant de repérer si, sur le plan institutionnel, sur le plan social, sur le plan technique, il n'y avait pas des jeux de contraintes qui structuraient largement ce qui se passait dans les situations, au-delà de l'action individuelle de l'enseignant. D'accord ? Notre objectif, c'est pas d'aller juger la pratique de tel ou tel, c'est pas du tout ça qui nous intéresse, c'est véritablement de comprendre les mécaniques sociales dans lesquelles sont plongés les enseignants dans chacun de ces contextes, pour essayer ensuite de voir comment ils se dépatouillent, les enseignants, avec ce jeu de contraintes, quoi.
D'accord. Peut-être avec une application concrète, par exemple, quand il s'agissait de mettre en place les PPCP, on avait cette prescription de mettre en place les PPCP, mais très rarement, au fond, on a eu l'occasion, en tant qu'enseignant, moi j'étais en lettres histoire, de s'interroger sur la manière dont le collègue en atelier fonctionnait, lui. C'est-à-dire que tout ce travail qu'on est amené à faire ici dans l'équipe autour de Laurent et des autres collègues, au fond, ça pourrait signifier un travail préparatoire à ce type, finalement, d'initiative. Comment est-ce qu'on travaille ensemble quand on a, finalement, des pédagogies implicites mais différenciées, des manières de manipuler les objets, les mêmes objets mais de façon différente, etc., etc. Au fond, on pourrait comprendre ce travail-là comme, donc c'est un des objets, un des objectifs de ce travail, hein, de déboucher sur des formations, mais de dire, tiens, comment est-ce qu'on a conscience, comment est-ce qu'on explicite pour soi-même et pour les autres les manières qu'on a d'enseigner face à des élèves dans le contexte qui est le nôtre, ou en histoire, ou en maths, ou en atelier.
Alors, ça c'est la première phase, c'est essentiellement cette phase-là qu'on va vous présenter, parce que la deuxième, qui est de se plonger dans la façon dont les enseignants se déroulent à partir des vidéos qu'on a produites dans ces cours. On n'a pas encore eu le temps de travailler dessus. Donc vous verrez juste des photos pour qu'on travaille sur les organisations matérielles et sociales et autres, mais vous verrez pas de vidéos aujourd'hui. Et par ailleurs, de toute façon, la question de ces vidéos est complexe parce que bien évidemment, on est sur des lieux d'enseignement sensibles et c'est pas toujours évident d'avoir les accords des enseignants sur l'utilisation de ces vidéos plus largement que dans le groupe restreint de chercheurs. Voilà. Ce que je comprends fort bien parce que ils sont souvent mis, les situations sont souvent compliquées à gérer et c'est jamais très agréable de se retrouver en vidéo pour gérer, et face à un public pour montrer comment on a géré ça. Quoi. Alors, ce qu'on va vous proposer dans un premier temps, parce qu'on va pas parler pendant des heures, hein. Tu les fais passer ?
Ouais.
Alors, c'est sûrement des documents que vous connaissez. Enfin, peut-être pas. Certains, hein, peut-être vous en connaissez un, puis pas l'autre, etc. C'est de faire un petit exercice de lecture de deux types de, on va dire, de sources de savoir qui sont d'un côté. Alors, il y en a un par groupe. Hein, j'en ai pas fait pour. Un par tablier. Donc l'idée c'est que vous travaillez ensemble. Donc c'est plus que des extraits, je vous ai mis carrément tout le programme de français d'un côté, et de l'autre côté, le référentiel professionnel du CAP métier de l'automobile. Et la question qu'on a envie de vous poser, en comparant ces deux documents, quelle rupture et quelle continuité identifiez-vous en termes de finalité de contenu de l'enseignement? Quel lien possible? Et est-ce que, à la limite, il y a des liens qui sont possibles et souhaitables? Donc on vous laisse un quart d'heure, 20 minutes. Bon, évidemment, ça va être un petit peu du survol pour essayer de comprendre, de prendre connaissance de la nature des connaissances qui sont dans chaque type de document et la façon dont ça fonctionne. L'idée, c'est que chaque groupe puisse un petit peu dire un peu comment il a vu les choses. Donc, Vincent.
Bon, voilà, l'animation va être rapide. On va vous laisser parler. Simplement pour bien identifier que la question qui se pose, c'est pas seulement d'explorer les ruptures et les continuités en termes de recherche et simplement en termes de programme, mais c'est bien de voir à quel moment s'établit pour un élève la cohérence de la formation qu'il suit sur 2 ans. Et c'est ça au fond qui nous est apparu quand on a travaillé ensemble, c'est que on pensait tous, de là où on parlait, savoir ce qui se faisait ailleurs. Et moi, j'étais convaincu dans mon rôle de prof de français, le collègue en atelier, qu'on savait ce qui se faisait, la manière dont on enseignait. Et au fond, on était à peu près convaincu aussi qu'on avait un objet commun. Et en travaillant donc sur ces documents, c'est peut-être ce qui va venir, hein, ce dont on s'est aperçu, c'est que, pas du tout, hein, et que les mots mêmes, finalement, annonçaient des finalités qui étaient différentes. Donc voilà, alors rupture et continuité. Je ne sais pas comment on procède. Peut-être que on peut procéder par ceux qui veulent prendre la parole et qui ont des. Alors en fonction de ce que vous avez lu, en fonction de ce que vous saviez déjà, et puis peut-être aussi en fonction de ces représentations qu'on peut avoir sur ce que fait l'autre, hein, ou sur ce que font ce qui se fait ailleurs. Voilà, écoutez, on vous écoute et puis on réagit et on.
Voilà. Donc l'analyse qu'on a faite, elle s'attache uniquement à la page 6, au tableau récapitulatif des grandes activités du RAP, où on a essayé de voir quelles étaient les activités continues avec le référentiel de français et quels étaient les points de rupture. Donc il nous semble que le premier point, accueillir le client et où le conducteur et écouter sa demande, on retrouve des éléments comme ça dans le programme de français et que ça c'est un point de continuité.
Oui.
Ensuite, dans le deuxième pavé, il nous semble que prendre connaissance, interpréter, traiter les informations de la procédure fournie est aussi un point de continuité de travail avec le français puisque là on se retrouve avec des écrits et que l'élève doit analyser pour exécuter le travail qu'il a à faire. Ensuite, on passait au point 11 où il devait renseigner la fiche de travail, donc faire état de ce qu'il avait fait. Ensuite, on passait dans 3, restituer le véhicule. Il nous semblait qu'il y avait des points de continuité quand l'élève doit rendre compte de l'intervention qu'il a réalisée. On a imaginé que se rendre compte pouvait être aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et puis enfin, dans le point 3, où il doit signaler à la hiérarchie ou aux clients les anomalies constatées. Pareil, là, ça peut être, on a imaginé que ça serait un travail oral ou parfois écrit avec des fiches à remplir pour laisser au client une trace écrite des travaux qu'il doit envisager dans l'avenir pour son véhicule.
Et pris en charge par l'enseignant de français ou pris en charge par l'enseignant?
C'est des points de continuité. On n'a pas déterminé qui pouvait faire cette prise en charge. Dans le cas de co-animation, c'est le prof de français qui, dans le cadre de l'atelier, peut faire ça. Si on se réfère à ce qui peut se faire en atelier rédactionnel, par exemple, dans le cadre du bac GA. Mais voilà, on n'est pas allé plus loin dans nos points d'analyse.
Point de continuité où on a une accroche dans les deux.
Où l'enseignant de français pourrait intervenir à ce niveau-là. Et il nous semble qu'on retrouve ces points-là dans le référentiel de français.
D'accord.
Je peux rajouter, je pense que vous nous avez donné quand même le plus facile parce que les points de continuité avec d'autres enseignements, c'est serait peut-être plus difficile à trouver. Là, on en a trouvé quand même pas mal. Et nous, on pense qu'un travail collaboratif, enfin en binôme, du prof du français et du prof d'atelier permettrait de sensibiliser le jeune sur, effectivement, la continuité. Mmh. C'est-à-dire, parce que vous nous donnez un métier aussi où il a une relation clientèle. Donc, sa relation clientèle, inévitablement, elle va passer par le langage oral et écrit. Donc, quand on voit dans la cohérence lexicale le registre de langue, là, on est pile poil entre le vocabulaire technique et le vocabulaire qu'il va devoir utiliser avec son client, le vocabulaire qu'il utilisera peut-être avec son employeur, qui sera plus sur un registre plus familier technique. Donc, on arrive à trouver beaucoup de points de continuité entre les deux. Mais il y a des points de rupture qui nous semblent inévitables. C'est rédiger un récit, rédiger un dialogue, une description, un texte argumentatif. Il va y avoir quand même de grosses difficultés à mettre en avant des points de continuité.
D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres actions ? N'hésitez pas.
Alors, après les continuités, la rupture ou les ruptures, nous avions identifié rupture pour l'élève dans les continuités. Pourquoi ? Dans les finalités, parce que l'enseignement professionnel en atelier, enseignement général en classe, et que bien souvent, la rupture, elle est là pour l'élève, c'est-à-dire que, certes, on fait du français, on fait des jeux de rôle, parfois, en français, etc. Mais c'est avec, dans l'atelier, dans le magasin école, que les élèves arrivent à se projeter, arrivent à donner du sens par rapport au français nécessaire.
Du coup, vous êtes là sur les espaces mêmes ? Quand vous dites classe et atelier,
Une même classe en lycée professionnel, en CAP, en enseignement général, ça va être dans une classe, et puis en enseignement professionnel pour ce CAP-là, ça va être en atelier, donc deux surfaces, deux endroits différents dans l'établissement, et puis des situations très différentes, l'une très concrète en atelier. Et puis l'autre, des chaises.
Donc une finalité à très court terme ou à moyen terme en atelier, et une finalité à plus long terme en général, en français.
Les autres groupes n'ont pas travaillé ?
Nous sommes partis d'autre chose que des textes et de notre expérience, de clients apportant une voiture.
D'accord.
Et on s'est dit que c'était forcément être confronté à l'altérité quand on faisait effectivement réceptionner le véhicule, donc accueillir le client ou le conducteur, c'est bien l'écoute, et non seulement l'écoute, mais aussi la confrontation à l'altérité, ce qu'on retrouve dans les programmes effectivement de français.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les trois groupes sont partis du référentiel atelier pour l'instant, et on remonte vers le programme français. Et pas, on fait pas le contraire, pour l'instant, ce qui se fait.
Ouais, vas-y. Parce qu'on est parti en lecture du programme, puis ensuite du référentiel.
Ouais. Oui.
D'accord.
Et on a recherché après sur le rap.
D'accord. Et donc vous
avez trouvé de la continuité.
Ok. Qui donc l'écoute,
Hein.
Entre autres, on a pris
l'écoute.
Mais parce que c'est une finalité, hein, qui peut être. Alors après, c'est une continuité pour nous, peut-être, ou ce qu'on a dit pour les adultes. Est-ce qu'il faut absolument homogénéiser de telle sorte que ce soit, alors, ou effectivement, comme le groupe précédent, par un tissage, par le même lieu, ou bien effectivement par une activité conjointe, ou même pour la même personne. Et puis on se dit, de toute façon, la continuité, elle n'est pas tellement possible. Un, parce qu'on construit quelque chose d'assez totalitaire qui est insupportable pour les élèves, c'est l'échec de la pluridisciplinarité qu'on connaît bien. Et puis d'autre part, les professeurs des écoles se trouvent, alors même qu'ils sont en charge d'une même classe, confrontés à des problèmes de transition eux aussi. Donc c'est pas une solution forcément que de penser que le prof d'atelier prendrait tout ça en charge, par exemple, ferait qu'il y aurait de la continuité pour l'élève. C'est pas si évident que ça.
D'accord. Et on se dit, en tous les cas, cette forme de continuité là, elle est pas.
Et qu'on peut penser, mais c'est une vue peut-être d'adulte, hein, que la rupture n'est pas positive, alors que peut-être elle est positive. Elle est un espace de respiration et qu'elle est nécessaire aussi pour les apprentissages.
À cet âge-là. Ils ont aussi besoin de rupture.
Oui, mais peut-être que c'est là pour le coup, là, le débat ou les.
Ça y est, c'est fait.
quel type de rupture?
Non, moi, on s'est dit en plus qu'effectivement, est-ce que de tout harmoniser ou de tout donner un lien sur tout, est-ce que ça peut convenir aussi à ces jeunes qui sont des ados et qui ont besoin aussi de rupture à eux, hein? On s'est posé la question, on n'a pas de réponse. Mais est-ce que tout doit être lien?
Oui, oui. Puis peut-être que la réponse n'est pas oui ou non, ou c'est ça, c'est tout à fait.
Il faudrait leur demander leur avis.
Eh ben, c'est prévu. Vous allez.
Oui, donc nous, on avait effectivement aussi travaillé sur la différence entre le BO, donc CAP et le RAP, par rapport au savoir-faire et savoir-être. Et donc ça rebondit finalement avec ce que madame a dit sur le fait que faut aussi penser que pour eux le français ou l'histoire géo hollandais peuvent être aussi une bulle d'oxygène après 4 heures ou 6 heures d'atelier, parce que souvent là, ils sont en atelier une matinée ou toute une après-midi. Donc quand je dis bulle d'oxygène, c'est pas s'amuser, c'est pas la récré, hein, mais c'est effectivement leur permettre de porter effectivement une autre réflexion et une autre manière de travailler, sachant que dans le BO CAP, il y a s'insérer dans l'univers professionnel. Donc on peut effectivement, à partir de leur formation professionnelle à venir, travailler sur la mécanique, la vente, le commerce ou autre. Voilà. Parce que ce matin notamment, là, on a entendu le fait qu'il fallait peut-être de plus en plus travailler effectivement avec les professeurs de vente, de commerce ou autre. Il faut aussi, je pense, que le professeur de français, d'histoire géographie, d'anglais, garde aussi un moment seul avec les élèves pour justement ne pas les écraser sous uniquement le professionnel.
D'accord.
On va peut-être encore prendre 2-3 réactions, puis après on continuera parce que le temps tourne.
Nous, on était d'accord avec ce qui s'est dit au départ. Moi, je voulais apporter par mon expérience, j'ai eu la chance d'enseigner les maths et la compta dans la même classe. Pour moi, c'était les maths et la compta. Pour moi, c'était une super chance pour les élèves, et en fait, pas du tout. Je les avais 14 heures en compta, enfin compta, droit éco, etc. Et 2 heures en maths, donc ils m'ont légitimée comme prof de compta et pas comme prof de maths. Même dans les calculs commerciaux, alors que les calculs commerciaux, à la base, c'est plutôt de la compta que des maths, quoi. Et ils me l'ont dit vraiment, c'était pas des élèves, c'était des élèves sympas, donc... Ils m'ont dit, pour nous, vous êtes notre prof de compta et pas notre prof de maths. Donc, ils ont mis du temps avant d'accepter que je puisse. Voilà. Ensuite, j'ai eu la même chose en PPCP. J'ai rencontré, je ne sais pas si vous l'avez vécu, une question de français. Si vous n'êtes pas le prof de français, ils vous disent, ah ben, on va demander à madame machin. Alors que, bon, a priori, on était tous capables de répondre, mais pour eux. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est les années de collège où c'est vraiment très, très coupé? Je sais pas. Autre chose, ce que je voulais dire, c'est que quand on a 14 heures les élèves, on a des liens complètement différents avec eux, alors que j'ai eu des classes où j'avais que 2 heures de maths, et j'ai bien noté la différence, quoi. On arrive, on jette nos 2 heures, et puis on s'en va. 14 heures, on les connaît de A à Z, quoi. Ils nous connaissent aussi.
Du coup, là, vous posez une rupture, quand même. Vous soulignez une rupture,
oui,
qui
oui,
est la question de la temporalité. La temporalité...
Ben oui.
Sous-entendu par le référentiel en atelier, pas du tout la même que celle qui est en vigueur en français. Hein.
Ouais.
Ça, c'est une grosse rupture.
Comme la spatialité.
comme la spatialité. Ouais. Mmh, tout à fait. Mmh. Des lieux où d'un côté on peut se déplacer et des lieux où d'un autre côté on ne se déplace pas. On est sur sa chaise, tout à fait.
Mmh. Ouais. Mmh. Oui.
Oui, alors justement sur cette question de rupture et de confusion avec l'élève qui fait du français avec le prof de français ou de la compta avec le prof de compta, je pense qu'il y a vraiment des solutions dans cette idée de travail d'équipe, quoi. Parce que du coup, avec les nouveaux programmes, il y a la méthodologie qui rejoint beaucoup de matières, hein. Je pense l'éco-droit, il y a des paragraphes argumentés à faire, des problématiques à chercher. Et ben en français aussi, en histoire-géo aussi, et il y a énormément de liens. Donc c'est la question, quel lien possible ? Et c'est ça en fait, les liens entre les matières. Effectivement, il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Il y a les idées des élèves qui pensent que le prof de français fait que du français. Mais en fait, on peut casser ça et puis faire quelque chose de plus global. Et donc faire un travail d'équipe. Pour ça, faut des heures, faut des moyens, et puis faut une équipe, quoi. Ça c'est sûr. Il faut changer un petit peu d'orientation tout en gardant l'identité de chacun. C'est quand même important, un prof de français histoire géo, d'avoir ses élèves, aussi son projet aussi à lui qu'il veut mener avec une classe, mais sans oublier le travail d'équipe qui est fondamental.
Voilà. On va avoir du mal quand on est élève à accepter qu'un enseignant de français puisse faire de la mécanique ou de la compta, mais on n'aura pas de mal à accepter qu'un prof d'atelier fasse de la techno. C'est-à-dire que dans un certain domaine, il y a des clivages qui sont très marqués, alors que dans un autre, il y a des clivages qui sont beaucoup moins des obstacles.
Ok. Alors, si vous voulez bien, on va avancer maintenant un petit peu. Donc, il y a pas mal de choses que vous avez dit, que vous allez voir, qui vont revenir maintenant dans nous l'analyse qu'on a produit. Hein. Donc voilà. Donc ce qu'on a fait donc dans l'analyse, c'est que on a déjà regardé, comme je vous disais, la question de la référence dans les trois disciplines qui nous intéressaient: français, génie mécanique, atelier. Et vous avez peut-être remarqué qu'on ne vous a distribué que deux documents. Et vous comprenez pourquoi on ne vous en a donné que deux. Parce que les trois enseignements nous intéressent. Donc une première différence très très forte de notre point de vue, c'est que dans un cas, on a un programme qui définit des connaissances à enseigner. Dans l'autre cas, on a un référentiel d'activité qui décrit des activités types. On nous a parlé ce matin que c'était un construit social. J'adhère complètement à cette idée. Hein. C'est donc les commissions paritaires qui les ont construits. Donc description des activités, des compétences associées et inférence des savoirs qu'on pense être en lien avec ces compétences. Je dis bien qu'on pense être en lien parce que pour moi, là, il y a une opération hautement acrobatique qui consiste à mettre en lien des savoirs formels avec des compétences pratiques de terrain, quoi. Donc déjà cette grande différence là, et la deuxième différence, alors déjà donc sur la question de la référence, ça veut dire que d'un côté la référence elle est professionnelle, mais pas uniquement, puisqu'on voit bien que les savoirs plus académiques, plus formels reviennent un peu par la bande sur la question des savoirs qui sont mis en lien avec les compétences, mais enfin plutôt une référence professionnelle, et qui est commune à trois disciplines identifiées dans le cursus des élèves. Le génie mécanique, l'atelier, elle en a pas mis, mais il y a la technologie aussi. C'est le même prof qui fait atelier et techno. Mais ça veut dire que dans un cas, on a une même source qui va nécessiter ensuite de construire trois dispositifs qui s'alimentent à la même source de savoir, quoi. Donc qui va nécessiter que les enseignants se parlent, discutent. Bon, si c'est les mêmes qui font deux des matières, ils ont besoin de parler à eux-mêmes, c'est tout. Enfin, les profs de génie mécanique et d'atelier ne sont pas les mêmes, donc ils vont être obligés de s'organiser. Et ce programme-là, il est évidemment uniquement valable pour ce CAP-là. Deuxième différence, donc, pour le français, c'est que ce programme de français, il est valable pour toutes les spécialités de CAP. C'est le même. D'accord? Donc, en termes de classification, là, déjà, on a une indication. D'un côté, le français a l'air d'être une discipline autonome en tant que telle. Hein. De l'autre côté, au moins trois disciplines, génie mécanique, atelier, techno, sont très poreuses les unes aux autres, puisque elles vont devoir beaucoup se parler pour construire les dispositifs qui correspondent à ces trois disciplines. En termes d'objets d'apprentissage, c'est intéressant ce que vous avez dit. Nous, on voit des liens possibles. Alors moi, quand j'ai lu le programme et puis le référentiel, je voyais aussi des liens possibles. Notamment, il y a toute la partie s'insérer dans le monde professionnel. Mais ce qui m'a très intéressé, c'est de voir le hiatus qu'il y avait entre des objectifs affichés, qui là où on peut clairement poser des liens, et le type d'œuvres qui sont proposées pour travailler ces différentes parties. Et notamment, si vous regardez le point qui s'appelle s'insérer dans le monde professionnel, je crois, hein, dans l'univers professionnel, qu'est-ce que vous voyez comme terme de support? Vous voyez texte fictionnel sur l'univers du travail. Alors là, document d'entreprise, ok. Encyclopédie, dictionnaire, presse, médias, films documentaires, associations texte, illustrations, schémas, commentaires. Donc, et si vous regardez ensuite tous les autres œuvres qui sont proposées, vous avez 80% d'œuvres littéraires qui sont proposées. Et vous avez peut-être 4-5% de type d'œuvres professionnelles. Alors moi je parle d'œuvres parce que c'est des œuvres humaines dans tous les cas, hein. Elles n'ont pas le même prestige, si on peut parler comme ça. Hein. Donc, quand on pousse un petit peu la logique, on se dit, ben finalement, qu'est-ce qui peut pousser un enseignant de français à véritablement s'emparer de la littérature professionnelle, celle qui est utilisée dans le métier? Eh ben, en tout cas, le programme, il a beau poser des objectifs, il ne donne pas forcément beaucoup de ressources. Mais il ne peut pas, puisque il est valable pour tous les spécialités. Donc, il ne peut pas rentrer dans le détail d'une spécialité, ce n'est pas possible. Donc, ce que nous, on appelle la littératie professionnelle, c'est-à-dire les œuvres écrites propres au métier, elles ne peuvent pas apparaître dans un programme comme celui-là, puisqu'il est valable pour toutes les spécialités.
Et là, on ne parle que des documents écrits que vous avez pu lire. On ne parle pas de la culture professionnelle de chaque enseignant qui vient doubler ce programme-là.
Alors, quand on continue un petit peu encore derrière tout ça, on pourrait rajouter que ce qui prime quand même aussi, et ça c'est redoublé avec l'entretien qu'on a eu avec l'enseignante avec qui on a travaillé, souvent CAP, ce qui va primer, c'est des œuvres culturelles courtes, parce que les élèves sont de mauvais lecteurs, il y a tout un discours sur les élèves par rapport à ça, donc des œuvres culturelles courtes, mais qui renvoient plutôt à des œuvres littéraires ou au cinéma, mais on reste dans la culture générale. Alors, du point de vue des liens avec les autres enseignements maintenant, ce qui nous a intéressé, c'est de se dire, bah, finalement, qu'est-ce qui va favoriser le fait que un enseignant va se saisir des possibilités que vous avez vues pour aller construire quelque chose en lien avec ses collègues de l'atelier et vice-versa. Hein. Moi, il n'y a pas un qui doit aller et pas l'autre. Hein. Ça, Vincent me le rappelle souvent et il a raison. Alors, quand on regarde dans l'établissement dans lequel on a travaillé, une première chose qui nous a frappé, c'est que l'architecture même de l'établissement reproduit cette classification forte des matières générales par rapport aux matières professionnelles. C'est ce que dit Bernstein. Il dit, il y a des formes de classification interne qui vont jusque dans les choix architecturaux des établissements. Or, ces salles d'enseignement général sont à peu près, allez, à 300-400 mètres, hein, des salles d'atelier. Donc un enseignant de français le matin, s'il veut faire son cours et repartir sans voir ses collègues d'atelier, c'est même pas que... Enfin, il faut vraiment, vraiment vouloir aller dans l'atelier. On peut, hein, c'est pas compliqué, les portes sont ouvertes. Mais disons, voilà.
Sachant que c'est un lycée qui a été rénové il y a peu de temps. Hein. Ouais.
Donc le programme est complètement autonome, on en a parlé. Il n'a pas besoin des autres programmes pour pouvoir se faire. Un enseignant qui fait bien son enseignement de français... il sera pas mal noté par son inspection, il y a pas de souci, hein. Donc il est pas noté sur les liens qu'il fait avec les autres. Je pousse un peu le bouchon, vous réagirez après si vous. Par ailleurs, ce qu'on a pu constater, je vous donnerai juste un petit extrait de l'entretien qu'on a fait juste après, la culture de la collaboration avec les collègues, y compris de sa discipline, est pas très poussée chez les enseignants. Et ça, on peut faire des liens aussi avec la façon dont les enseignants sont formés, hein. Sont-ils formés dès l'IUFM dans une logique de la collaboration ou sont-ils d'abord formés dans une logique plutôt didactique interne à la discipline? L'emploi du temps dans les lycées professionnels, en l'occurrence dans cet établissement-là, il est souvent peu favorable au travail en équipe. Les gens ont peu de créneaux disponibles, etc. Les profs de français se plaignent souvent d'ailleurs du fait qu'ils sont la dernière roue du carrosse en matière de construction des programmes, puisqu'ils arrivent après les matières professionnelles dans les domaines industriels, hein, j'entends. Puisqu'il y a les contraintes industrielles priment, dans cet établissement en tout cas. Le chef de travaux fait d'abord l'emploi du temps pour les matières professionnelles et on complète avec les matières techniques et générales derrière. Voilà. Donc voilà, il y a parfois peu de marge de manœuvre qui sont laissées de ce point de vue-là, et il y a une culture plutôt faible du travail en équipe dans cet établissement. Peut-être qu'il est plus fort ailleurs. Donc on a déjà là tout un ensemble d'éléments qui expliquent un certain nombre de difficultés. Alors juste pour vous illustrer ça, donc l'entretien qu'on a fait, un petit bout d'entretien, où l'enseignante dit c'est compliqué de monter un cours à plusieurs, parce que c'est une enseignante qui est très volontaire de ce point de vue-là, hein, de vouloir travailler avec les autres, ou même entrer dans la préparation de cours d'un collègue. Cela se fait rarement, on échange sur des contenus durant les temps de pause, à la cantine ou à 10h. Chaque prof est limité à sa classe, sa salle, son emploi du temps. Alors, c'est intéressant, dans cet établissement, chaque prof a sa salle attribuée, par exemple, en français. Ce qui est intéressant, mais en même temps, qui ne brasse pas, quoi. On n'intervient pas dans le cours d'un autre. Ce n'est pas interdit, mais c'est une initiative qui se fait sur le temps personnel du prof, et cela reste exceptionnel. Ce qui se fait, c'est de temps en temps rendre visite à nos collègues et nos classes dans les ateliers. Et ça, elle le fait, elle, mais beaucoup ne le font pas. Je reviens un tout petit peu en arrière. Alors, maintenant, pour ce qui concerne les deux autres matières. Évidemment, là, les choses sont tout à fait différentes, puisqu'il a fallu faire des réunions de coordination pour savoir qui allait faire quoi, comment est-ce qu'allaient être abordés les aspects théoriques, puis ensuite travailler les aspects pratiques dans l'atelier. Tout ça est fait sous la houlette de l'inspecteur de cette matière pro dans l'académie, qui a une grosse volonté de faire travailler ses profs en équipe. Et il y a un élément qui me paraît, moi, très très important, c'est que c'est facile de passer dans l'atelier à n'importe quel moment. Nous, chercheurs, on n'arrête pas de le faire. On peut pas rentrer dans un cours de français comme ça à la volée, c'est impossible. On est obligé de prévenir longtemps à l'avance, de se mettre tout discret au fond de la salle et de laisser le cours se dérouler. Hein. Donc, évidemment, en termes de porosité du contexte, du dispositif, on a évidemment des caractéristiques tout à fait différentes de ce point de vue-là. Et on a bien constaté que le collègue de génie mécanique passait régulièrement dans l'atelier, à n'importe quelle heure, voir son collègue d'atelier, pour discuter d'aspects divers et variés, mais beaucoup d'aspects didactiques et pédagogiques. Ah oui, t'as fait ça, ouais, moi je leur ai enseigné ça, donc ils pourront l'utiliser après, etc. Il y a sans arrêt des régulations comme ça qui s'opèrent entre les deux, quoi. Et puis un autre élément qui est déterminant, c'est que les objets d'études sont tout à fait partagés dans un cas, et en français, le sont pas. Enfin, ils pourraient, hein, on a vu que pourraient se monter des choses. Mais par exemple, on verra tout à l'heure, un contacteur de portière, ben, on le retrouve du point de vue de l'étude théorique, du point de vue de ses caractéristiques en génie mécanique, on le retrouvera dans l'atelier. Donc là, il y a des points de continuité possibles, explicites de la part des profs et pour les élèves. Je rajouterais juste une chose aussi, c'est que dans cet établissement, on en a parlé un petit peu ce matin, les opportunités qui sont données par les enseignements généraux à caractère professionnel liés à la spécialité n'ont pas du tout été utilisées, exploitées encore en bas, mais sont essentiellement utilisées par la direction comme une souplesse, hein, on va dire, par rapport à toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir en termes d'emploi du temps, quoi. Donc, il n'y a pas d'enclencher de vrai travail. C'est quelque chose qui commence à se mettre en place cette année, mais à l'époque, quand on a pris nos données, c'était très faible. Donc, finalement, toute une série de facteurs objectifs qui font que, d'un côté, un enseignant, finalement, de français, mis à part l'éducation civique et l'histoire avec lequel, évidemment, il peut faire des liens, puisque c'est lui-même qui les enseigne, eh bien, il n'a pas grand-chose qui l'encourage, malgré les possibilités laissées par le programme, pour travailler véritablement de manière collaborative avec ses collègues. Donc on pourrait dire que la classification est forte entre le français, histoire... Enfin, elle est faible entre ces trois matières-là, puisqu'il y a des porosités que l'enseignant peut travailler lui-même. Mais elle est très forte vis-à-vis des autres groupes de disciplines. Et de l'autre côté, on a un bloc génie mécanique atelier... techno, qui lui va être très faible entre ces matières-là, très poreuse, mais fort vis-à-vis d'autres. Alors, un dernier élément par rapport à ça, je ne sais pas si j'en parle après, donc je vais peut-être pas trop m'avancer. Si j'en parle après, donc j'ai rien. Alors, là aussi, donc un petit témoignage qui montre la différence de culture, hein, enfin de façon de travailler. Les profs de construction, donc la génie mécanique, essayent de faire des études techniques à partir des supports d'atelier. On essaye à chaque fois de travailler en lien avec le métier. Donc là, c'est le prof d'atelier qui parle. Hein. Ils viennent nous voir pour voir si on a un composant, si on a quelque chose qui leur permettrait de faire une étude. Nous, on a fait des maquettes, par exemple. Donc quand ils veulent attaquer un nouveau sujet, on leur prête la maquette pour qu'ils puissent visualiser. Et surtout, on leur donne de la documentation qui va avec et qui va leur permettre de faire un support de fond. Le cas échéant, ils viennent démonter, voir comment ça se passe. On leur explique s'il y a besoin. C'est un travail, une coopération, mais là, rien au niveau institutionnel, c'est de la coopération. Alors, on voit bien que d'un côté, c'est frappant, hein, cette, le discours qui finalement met en exergue cette logique de l'individualité, et de l'autre côté, un discours qui met beaucoup plus en évidence la logique de la collaboration. Alors, tout ça peut nous ramener à des débats historiques. Hein. On va essayer de ne pas être trop long là-dessus parce qu'il nous reste une deuxième partie. Bien évidemment, ça pose la question de la place de l'enseignement général dans la voie professionnelle. On en a parlé ce matin. Il faut bien prendre conscience que c'est un particularisme très français. C'est-à-dire que quand vous allez en Allemagne, en Suisse, etc., vous pouvez avoir vous avez des enseignements généraux, les mathématiques, etc., mais ça n'est pas fait par un enseignant de français. C'est fait par un enseignant de culture générale qui a tout un ensemble de matières à enseigner, et ces enseignements sont beaucoup moins littéraires et beaucoup plus orientés professionnels que ça ne l'est en France, par exemple. Donc se pose moins ce problème-là. Je suis pas en train de dire qu'ils ont raison, nous avons tort. Attention, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire de culture générale, d'affaire accéder à la culture. Je vous regarde parce que je sens que je vais me faire engueuler. Je suis d'accord avec vous là-dessus, mais on verra que ça pose d'autres questions, quoi. C'est évidemment des tensions qui ont été présentes pendant toute l'histoire de l'enseignement professionnel en France. Dès le début du siècle, on avait des débats du type former seulement le professionnel ou éduquer aussi le citoyen. Si ça vous intéresse, je vous conseille de lire un vieil ouvrage, mais qui est toujours fortement d'actualité, qui est « Histoire de l'enseignement technique, Pelpel Troget ». Vous l'aurez demain, Vincent. C'est Patrice Pelpel ou Vincent qui vient, je ne sais plus. C'est Vincent Troget, voilà. Donc vous aurez la possibilité de le questionner là-dessus. Mais on retrouve bien ces débats-là, hein, dans le livre. Hein. « Former seulement le professionnel ou éduquer le citoyen ? Est-ce que les disciplines générales sont des disciplines outils, ou est-ce qu'elles ont des finalités différentes ?» autonome d'accès à la culture.
Enfin, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que ça traverse pas seulement l'histoire de l'enseignement, de l'éducation, mais ça traverse complètement nos manières d'enseigner. Mmh. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt entre ces deux tensions-là. Dès qu'on est prof de français ou les profs d'atelier se posent moins la question, mais dès qu'on est en enseignement général, on se pose cette question-là et on essaie toujours d'y répondre. C'est ça qui est intéressant de cette perspective-là. Moi, je trouve toujours qu'elle est intéressante.
Et puis, dans le lien avec ça, hein, est-ce qu'il faut faire primer les études, les œuvres culturelles universelles, lettres, histoire, maths, sciences, hein, je ne sais pas, valable que seulement pour le français, ou travailler à partir des objets et pratiques plus spécifiques du milieu quotidien et professionnel des élèves. Là, on voit bien aussi que le clivage qu'il peut y avoir. Alors, quand on regarde un petit peu, il y a deux chercheurs là qui ont travaillé il y a un petit article intéressant, je vous conseille de le lire, sur l'analyse des programmes de français en lycée professionnel entre l'après-guerre et puis maintenant. Et elles mettent en évidence des paliers successifs avec une tendance à la déprofessionnalisation de l'enseignement du français. En particulier, dans l'après-guerre, on a beaucoup recherché l'idée de construire une culture générale ouvrière, hein, et pas simplement. Et on va de plus en plus vers une culture générale qui est commune, avec l'histoire de socle commun, etc., à l'ensemble des élèves d'une génération. Donc, est-ce qu'on peut parler de culture ouvrière, de culture générale, de culture commune ? On voit bien que toutes ces questions-là se posent. Et puis, finalement, on peut aussi faire le lien, ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi ne serait-il pas possible d'étudier des œuvres humaines que sont les œuvres techniques, enfin les écrits professionnels, comme des œuvres en tant que telles? Alors là, faut peut-être s'interroger sur les hiérarchies sociales qui sont produites dans la société sur le degré de légitimité, de prestige des œuvres les unes par rapport aux autres. Hein. Donc, quel statut social des écrits professionnels et des pratiques littéraires de la vie quotidienne par rapport au savoir de la littérature, etc. Qu'est-ce que la société valorise ou dévalorise, etc. Hein. Que savent les enseignants de français sur les pratiques de lecture et d'écriture professionnelle ? Comment peut-on construire des liens si on ignore tout de la nature des objets littéraciers qui sont mobilisés dans la pratique professionnelle, par exemple ? Je ne dis pas que vous ignorez, mais nous, on a bien...
C'est une hypothèse.
Voilà, c'est une hypothèse. Mais enfin, en tout cas, on a vu des enseignants qui n'avaient pas beaucoup de connaissances là-dessus. Quelle capacité d'enseignement dans les enseignements liés à la spécialité, généralement liés à la spécialité, compte tenu du rôle important de facteurs non favorables à la collaboration avec les enseignants du professionnel, tel qu'on a vu tout à l'heure. Alors, un petit encart sur les maths sciences, par exemple, je trouve intéressant l'évolution. Jusqu'avant la réforme, on avait des programmes de maths sciences qui étaient propres à chaque spécialité de CAP. Après la réforme, on n'a plus que 3 programmes de maths sciences par grand domaine. Je ne me rappelle plus lesquels, il doit y avoir tertiaire, industriel, etc. Eh bien, la chose que nous ont dit les profs sur le terrain, c'est de dire, bah, on avait des collaborations assez importantes avec les profs de maths physique en automobile. On pouvait travailler des choses sur le courant continu. Avec le recentrage sur des programmes partagés, eh bien, par exemple, nos élèves font maintenant le courant alternatif parce qu'ils sont dans le groupe du bâtiment. Mais en automobile, ça n'a strictement aucun intérêt, le courant alternatif. Donc on oblige à faire un programme, une partie de programme sur quelque chose qui n'a plus d'intérêt pour... Alors vous allez me dire, c'est de la culture générale. Sauf que dans les pratiques des enseignants, les profs d'atelier ont constaté, et les profs de maths sciences aussi s'en sont rendus compte, ils leur ont répondu, on ne peut plus autant travailler avec vous, on est obligé de faire notre programme. Donc il y a plein de choses de collaboration qui ont été remises en cause et déconstruites. Quoi. Alors voilà, donc pas pour l'analyse déjà des corps de texte institutionnels. Alors maintenant, ce qu'on vous propose, mais il reste plus beaucoup de temps malheureusement, il nous reste 25 minutes. Bon, alors maintenant, on va regarder, parce qu'on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans chacun des cours. D'accord ? On était resté au niveau des textes et tout ça. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans les cours. Donc, trois enseignements. Donc, je vais vous montrer des photographies et on va vous redonner un peu la balle de travail par rapport à ça. Premier cours, cours de français. Ce cours de français, donc, c'est un cours de CAP. Donc, le premier cours, c'est le cours de français. C'est une séquence qui vise à travailler avec les élèves la notion d'humour noir, le genre littéraire humour noir, hein, voilà. Et je vous donne rapidement quelques infos sur ce qui s'y passe. Donc vous voyez ici deux images. Tout simplement, il y avait deux caméras, une caméra qui prenait plutôt braquée sur l'enseignante et une caméra braquée sur la classe. On filme la même situation, mais de deux points de vue. Donc un enseignement qui travaille sur la question de l'humour noir et le déroulement du cours rapidement, hein, c'est d'abord l'enseignante a choisi de montrer un court-métrage qui s'appelle Le Homard d'Artus de Berngern. Je ne sais pas si vous connaissez ce... Pourquoi elle travaille à partir d'un court-métrage, donc vous verrez tout à l'heure, je ne vous en dis pas beaucoup plus. Donc d'abord un visionnage du court-métrage avec ses élèves et puis ensuite une feuille, on est en train de distribuer les documents, une feuille où il y a la transcription du film, du petit court-métrage, des dialogues, et derrière la feuille, vous allez avoir des séries de questions, déjà première partie pour comprendre l'histoire, ensuite pour travailler avec les élèves, les éléments du texte qui peuvent être repérés comme étant liés à la notion d'humour noir, et puis une troisième partie qui porte sur la définition de ce que serait l'humour noir construite collectivement avec les élèves. Voilà. Donc ça va s'étaler sur deux séances. Deuxième situation, le cours de génie mécanique. Donc là, on change de contexte, je ne dis rien là-dessus. Simplement le fait que cette fois, il s'agit d'étudier un contacteur de portière. Un contacteur de portière, c'est un petit objet qui est dans la portière de votre automobile, d'accord, et qui va servir à allumer le plafonnier quand vous ouvrez la porte. Ou qui va servir à déclencher l'alarme si on essaye de vous voler votre voiture, par exemple. Donc l'enseignant va étudier ce contacteur à partir de logique de dessin industriel. Vous avez aussi les documents. Donc vous voyez, t'as donné Vincent?
Oui, oui.
Donc c'est ça là. Hein. Celui-là, vous voyez du dessin en deux dimensions, un tableau, etc. Et il utilise un vidéoprojecteur. Alors j'ai pas dit, la prof de français, elle utilise aussi un vidéoprojecteur pour projeter le film. Elle va s'en servir aussi pour montrer des éléments de contextualisation, par exemple le fait que l'histoire se passe à Brest, elle va montrer une carte de Brest, etc. Et elle utilise aussi le tableau pour noter les mots que les élèves ont donnés. Ici, lui, il utilise un vidéoprojecteur avec un ordinateur, un logiciel de dessin en trois dimensions qui va lui permettre de manipuler virtuellement l'objet dans tous les sens, d'enlever des pièces, parce qu'il y a plusieurs pièces qui constituent cet objet, d'accord, de zoomer sur une partie, etc. Il utilise l'objet qu'il a dans la poche, il le montre de temps en temps, et il utilise ses documents écrits qu'il projette en rétro-projection classique, en vieille rétro-projection. L'idée, l'objectif, c'est d'étudier comment est-ce que les différentes parties de l'objet, contacteur de portière, comment elles sont liées, quelle est la nature des liaisons, liaisons fixes, liaisons de rotation, liaisons de translation, etc. D'accord ? Et au fur et à mesure, on va remplir un tableau de liaison. C'est le document, la deuxième page que vous avez. Sur la droite, vous avez des tableaux avec à remplir avec des valeurs de liaison, de rotation, translation, etc. Dernière situation, une situation d'atelier où vous avez des élèves qui fonctionnent en binôme, d'accord ? et qui vont avoir chacun un travail différent à faire. Nous, on en a filmé deux pendant cette séance-là, qui un binôme changer des amortisseurs et des roues, donc démontage, vérification, remontage, et puis l'autre binôme travaillait, lui, sur le changement d'une courroie de transmission. Donc ils sont là tous les deux, hein, premier binôme ici, deuxième binôme là. Là, vous avez une salle commune où l'atelier, des salles où l'enseignant transmet le travail au début du cours, et puis des magasins dans lesquels ils vont chercher de l'outillage, etc. Donc maintenant, question que je vous pose, et là on peut repartir sur 5-10 minutes d'échange entre vous. Qu'est-ce que les élèves vivent comme rupture et continuité entre ces trois situations? D'accord. Sachant que je dois vous dire, enfin, je vous rappelle, l'idée c'est qu'on veut notamment on peut se donner l'idée de caractériser du point de vue de l'organisation matérielle et sociale du travail et du point de vue didactique. Vous pouvez faire la différence un peu entre les deux. Mais d'après vous, vous mettez-vous à la place d'un élève, que vit-il comme rupture et continuité d'une situation ainsi? Donc vous avez les photos et les documents. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous voyez rupture et continuité dans ces trois situations?
Alors on va faire circuler la parole, on va commencer par là cette fois-ci.
Alors, on a beaucoup réagi. Parce qu'on trouve ces situations assez caricaturales, en fait. On peut tout à fait trouver en français des situations de type atelier. Ça se trouve aujourd'hui, il n'y a pas besoin de... Voilà. De même qu'on peut trouver des fois des cours d'atelier qui ressemblent finalement trop, des fois, à ce qu'on voit ici dans le cours de français. Donc, en fait, la comparaison, là-dessus, on n'est pas trop su l'intérêt que ça avait, puisque dans les pratiques pédagogiques des enseignants, en fait, l'intérêt, c'est plus de varier ses pratiques dans ses cours, avant même d'essayer d'imiter le voisin, qu'il soit prof d'atelier ou pas, en fait. Voilà. La deuxième chose, les ruptures, il faut les organiser, les construire. Moi, les élèves que j'ai en lycée pro, je suis proviseur, hein, voilà. Une des premières sources de déception en arrivant en seconde, c'est de retrouver beaucoup, beaucoup de choses qui ressemblent au collège. Beaucoup. Au moins 80%. Les règlements, les personnels, les organisations, les salles de classe, etc. C'est très, très ressemblant. Les punitions, les sanctions, les bulletins, les conseils de classe, et j'en passe. Ils retrouvent tout leur code. Et quelque part, c'est déjà mince. Oh là là, c'est mal parti. Pendant 4 ans, j'ai galéré, des fois 5. Et on m'en remet une louche. Alors qu'on m'avait dit que
ça allait être différent.
Alors, on peut être différent, ceci dit. Ça, on peut, mais encore faut-il le décider et le mettre en œuvre dans son cours seul, avec ses collègues, etc. Donc ça, il faut construire, parce qu'il faut le penser, ces ruptures. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut qu'on soit en rupture avec tout. Donc, on ne peut pas. Techniquement, ce n'est pas possible, ce n'est pas forcément souhaitable non plus, notamment pour certains élèves plus en difficulté. On sait, notamment les élèves qui ont des handicaps et qu'on doit accueillir aussi. Les choses qui se répètent ont aussi leur importance. Mais se répéter sans pour autant être réellement dans la répétition, c'est aussi tout un art et ça s'organise aussi. Donc en fait, voilà le niveau de notre réflexion là-dessus, c'est que bon, on parle des cours de français où une fois ça se passe dans une situation style bus, là, d'autres fois on met les tables de côté, on change de salle carrément, et on fait du théâtre, ou je sais pas quoi, plein de choses qui peuvent varier les plaisirs et les déplaisirs aussi quelquefois, voilà. Donc moi je pense que l'intérêt d'abord c'est de varier ses pratiques d'enseignant dans son cours, en s'inspirant ou pas de ses collègues, en créant ou pas des liens, avec le programme de ses camarades. Alors, ça, c'est très bien, hein, mais plus que les liens comme on a cherché, peut-être à travers un projet pédagogique qui est peut-être plus souple, où chacun peut y trouver une part qui peut être collée côte à côte avec ses collègues, mais aussi des fois, et rapidement, je pense, des points communs, et les élèves nous suivront là-dessus. Ils suivent alors, très volontiers, pour le coup, sans trop se poser la question de « lui, c'est le prof de quoi, au fait ?»« Ah oui, donc s'il me dit ça là-dessus, je ne le prends pas. » Mais c'est des automatismes qui vient sans doute du collège. Mais on peut vite passer, ils peuvent vite passer au-delà de ça, s'ils trouvent, chaussures à leur pied en termes de motivation, mais d'ambition, et d'intérêt, de complexité dans ce qui est proposé. Voilà ce que j'avais à dire.
On avait une petite image à la théorie de l'évolution en français à Vachy, en génie mécanique redressé et en atelier debout.
Donc l'atelier serait l'aboutissement, c'est intéressant comme... c'est pas toujours l'idée qu'on a de la hiérarchie, c'est pas mal, hein, c'est intéressant.
D'autres réactions?
Oui, juste une petite remarque par rapport aux documents.
Là, je m'y retrouve en prof de compta avec l'évaluation, les critères d'évaluation donnés aux élèves et rien en français. Enfin, je pas tout, non. Et là, j'ai pas regardé, mais c'est une des différences aussi entre l'enseignement professionnel et l'enseignement général.
Donc, vous mettez
général.
En évidence le fait qu'on a une explicitation plus forte. Ouais. Avec les façons dont on va être évalué.
Depuis, moi ça fait plus de 20 ans, depuis toujours on donne les compétences aux élèves au départ, au début de la séquence, et on sait ils savent sur quels critères ils vont être évalués dès le départ en fait. D'accord. Ce à quoi on veut arriver et comment on va les évaluer.
D'accord. Alors, il y a juste un petit effet qu'il faut prendre.
Sur le document, j'ai pas vu.
Il faut prendre en compte le fait que, évidemment, c'est des processus qui se déroulent sur plus que ce qu'on a filmé. Et bien évidemment, il y a des choses qu'ils ont dites aux élèves sur comment ils seront évalués, etc., qu'on vous a pas donné. Hein, mais il faudrait compléter l'information sur ces aspects-là. Mais c'est pas réécrit sur chaque document qui sont distribués, donc ça peut être un effet de ça. Quoi. Une autre action. Mais donc c'est un point intéressant, la façon dont on explicite ou reste implicite les questions de lien avec l'évaluation. Ouais.
En même temps, sur ce point, je rejoindrai ce qu'a dit. La première table, le collègue qui est chef d'établissement, sur le côté caricatural de la chose, puisque en français, on a aussi une tâche globale à réaliser, on va élaborer des critères de réussite, on va avoir tout ça. D'autres, en atelier, je sais qu'il y a de nombreux collègues qui ont des phases de verbalisation de ce qui vient d'être fait, on remet par écrit, et ainsi de suite. Donc là, on est quand même encore...
Mais qu'est-ce qui est caricatural dans cette affaire-là? J'ai du mal à vous entendre. C'est vous qui dites que c'est caricatural. Moi, j'ai pas dit. Enfin, ce que vous dites, j'y adhère. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière, bien sûr que c'est dit dans l'enseignement, etc. Mais pourquoi ce serait caricatural ce qu'on vous a montré là?
Parce que ça voudrait dire que l'enseignant de français est derrière son bureau, a une salle de classe avec ce type de disposition, et que quelque part, on n'est pas loin du cours magistral. Or, selon le cours.
Est-ce que je vous ai dit que c'était un cours magistral?
Non. Et en plus, visiblement, c'en est
non, peut-être mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a des projections que vous faites sur les images. Qui vous renvoie à des représentations, vous. Mais moi, j'ai jamais dit que c'était un cours magistral.
Alors, on va dire que le choix qui est proposé suggère fortement qu'on.
Donc, ça veut peut-être dire que ça évoque des représentations de ce que c'est qu'un cours magistral. Parce qu'en l'occurrence, c'est un cours très dialogué qui s'est passé ici. C'est-à-dire qu'il y a eu un échange permanent entre l'enseignante et les élèves. D'ailleurs, difficile à tenir pour l'enseignante parce qu'on a des élèves qui étaient très bruyants, très dissipés, etc. Mais j'ai pas dit que c'était un cours magistral. Donc c'est intéressant votre réaction, je trouve.
Alors, on aurait pu faire une photo aussi, par exemple, avec des tables disposées entièrement autrement, ou pourquoi pas.
Ça, par contre, elles n'ont pas été disposées autrement.
Pourquoi pas pas de table du tout, comme on peut avoir.
Oui, mais ce qu'on nous on a fait, on a pris une semaine. On a dit on va suivre le quotidien des élèves. On n'a pas cherché à trouver des situations qui soient caricaturales ou pas caricaturales. On arrive, on prend et on analyse. Voilà. Donc derrière ça, vous pouvez les juger caricaturales. Moi, la question que je me pose, enfin, on les a travaillés avec les enseignants de l'établissement. C'est absolument pas caricatural, hein, ce qui se passe. C'est le quotidien des élèves, ça. Donc peut-être que dans d'autres établissements, ça se passe très différemment. Mais c'est intéressant votre réaction parce que bon, ça veut dire qu'il y a une diversité probablement de logique d'établissement. En même temps, bon, il faudrait qu'on retourne voir dans un autre établissement, qu'on reprenne une semaine. Alors, est-ce qu'on verrait des grosses différences?
Non, je sais pas, c'est ouvert. Ce serait caricatural si ça ne correspondait pas jamais à des situations qu'on puisse connaître. Mais ce type de disposition, qui ne présage absolument pas de ce qui s'y fait, mais ce type de disposition où les élèves sont assis à des tables en cours d'enseignement général et où les élèves sont plutôt debout ou plutôt actifs en cours d'atelier, pour le coup, ça me semblait pas être une caricature, ça me semblait être quelque chose de plutôt répandu. Pour autant que, de ma place de formateur, ayant visité beaucoup, beaucoup d'enseignants, c'est quand même souvent ce que je vois. Je vois rarement des classes de français où les élèves sont debout et les tables poussées contre les murs. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même pas la norme. Et pour autant, la norme, je la stigmatise pas. Hein. Mais la norme, c'est quand même des élèves qui sont derrière une table en cours de français.
Et je crois qu'il faut regarder, alors on va avancer un petit peu là-dessus, sauf s'il y a d'autres réactions peut-être, mais comme le temps avance... Oui. Ouais.
Merci. Nous, on voulait dire dans le groupe qu'en fait, il y avait quand même un degré d'autonomie différent en fonction, et c'est quand même important, C'est-à-dire que dans l'atelier, ils sont en binôme, mais il y a quand même une possibilité d'autonomie. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur le document, hein, mais ils vont. Et nous, on s'était dit que il y avait une autre possibilité, c'est prendre une vidéo de quelqu'un qui répare une automobile, et plutôt que de leur donner le document, c'est pourquoi pas suivre au travers d'une vidéo. Où là, c'est encore une autre approche. Mais c'est vrai que dans les deux premiers cas, ils sont quand même en individuel et à une table. Dans le dernier cas, il y a quand même, d'abord, ils sont debout et ils ont sans doute le professeur peut, enfin, ou le chef d'atelier peut pas être avec tout le monde en même temps.
Alors, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, notamment la dernière remarque, on vous livre nous notre analyse et puis on pourra rebondir après hein, sur la façon dont vous voyez les choses. Donc on a essayé d'analyser les choses de deux points de vue. Hein. Alors donc déjà du point de vue de l'organisation matérielle et sociale, je m'intéresse pas ici au fait est-ce que c'est représentatif de toutes les situations. Je prends ce que j'ai vu là et j'essaye de me mettre à la place d'un élève pour essayer de voir. Enfin, en tout cas, du point de vue de ce qu'il va vivre en termes de rupture continuité, où seraient des ruptures, où seraient des continuités. En termes d'organisation de l'espace matériel et puis d'organisation sociale du travail, force est de constater qu'on a une grande similitude entre les deux premières situations, puisque on est dans une salle de classe, on a 10 élèves assis à une table individuelle. Effectivement, dans ce cas-là, ils ont très peu le droit de bouger. Sauf quand l'enseignant les autorise de le faire. Hein. C'est le cas dans le cas du français, quand des élèves vont se retrouver au tableau pour corriger un texte, je me souviens plus exactement, ou dans le deuxième cas, quand l'enseignant envoie au tableau un élève répondre à la question posée sur le rétroprojecteur et les transparents. Par ailleurs, donc on a une disposition matérielle tout à fait similaire avec je crois que la seule différence c'est qu'il n'y a pas d'estrade dans le cas du génie mécanique. Du point de vue des dispositifs de projection, on a un vidéoprojecteur qui projette des images, un tableau, et la différence dans un cas c'est qu'il y a le rétroprojecteur qu'il n'y a pas dans l'autre. Donc du point de vue des traits de surface, on est sur des choses très similaires. Dans le cas de l'atelier, bien sûr, la rupture est très forte du point de vue de ces traits sociaux et d'organisation matérielle, puisque, vous l'avez souligné, les élèves ne sont plus individuels mais travaillent en binôme, chacun sur un TP différent. Ce qu'on n'a pas souligné aussi, c'est que les séquences durent une heure, en français, en génie mécanique, elles durent 7 heures dans le cas de l'atelier sur 2 jours. Par ailleurs, dans le cas du français et du génie mécanique, l'organisation didactique, c'est tout le monde se concentre sur le même objet d'étude pendant une heure. Et il est très difficile de voir, d'envisager des relâchements d'élèves comme c'est possible dans l'atelier. À l'atelier, quand on a filmé, on voit bien, ils travaillent 10 minutes, ils se relâchent 5 minutes, ils se remettent à travailler 5 minutes. Et voilà, il y a tout un jeu. C'est pas possible hein, en français de faire ça. Hein. On peut pas se relâcher. On est dans l'injonction de toujours, d'être intensément dans le travail pendant une heure.
Le rythme.
Ce qui veut pas dire que les élèves le font. Hein. Voilà. Donc ça, c'est des aspects d'organisation institutionnelle dans ce cas-là qui fonctionnent comme ça, quoi. D'accord. Alors sur le plan didactique cette fois, quand on regarde les objets du milieu, hein, dans un cas, on a un court-métrage qu'on va projeter, la feuille de transcription des dialogues de ce court-métrage, la partie verso de questionnement, hein, première partie, qu'avez-vous compris de l'histoire, deuxième partie, si je me souviens bien, qui porte sur ce qui est drôle, et la troisième partie sur comment on va définir collectivement ce qu'est le genre humour noir. Le vidéoprojecteur propose après le film une carte des éléments de géographie pour situer l'histoire et l'enseignante remet au tableau régulièrement des mots au tableau quand les élèves les disent, ou alors carrément sur la transcription qui est projetée va souligner des choses sur le tableau en superposant le vidéoprojecteur et le tableau avec le feutre. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le cas du français, malgré, si on s'intéresse aux modalités de transmission qui sont soit plutôt visuelles, soit plutôt orales, soit plutôt écrites, soit plutôt gestuelles, on pourrait parler de multimodalité dans notre jargon, eh bien, dans le cas du français, le film en lui-même n'est pas... L'objectif, c'est pas de faire une analyse de l'image. On n'est pas dans un cours de cinéma. On est vraiment dans un cours de français. Et l'objectif, c'est de travailler sur l'écrit, sur les transcriptions des dialogues. Simplement, l'enseignant nous a bien expliqué qu'elle utilisait cette technique d'entrée dans les textes parce qu'elle avait affaire à des élèves qui avaient du mal à se concentrer. Et elle explique que quand elle donne directement un texte écrit, elle les perd tout de suite, quoi. La vidéo va permettre à la fois de focaliser l'attention sur un même objet pendant une heure, donc une fonction de concentration et de focalisation.
De gestion de classe.
De gestion de classe, ouais. Et en même temps, va servir de propédeutique à l'entrée dans l'écrit, d'une certaine manière. Donc, l'enseignant dit, ben ça, je crois qu'elle le dit juste après. Le court-métrage, c'est une manière de doubler l'entrée dans le message. Nos élèves ne sont pas de bons lecteurs et souvent ils n'ont pas compris l'histoire. Il est bon qu'ils aient plusieurs propositions de lecture et de relecture. Avec le court-métrage, on entre par l'image et l'oral, et puis avec le scénario, on poursuit par l'écrit. Donc la finalité, elle est bien d'arriver à l'écrit, avec des visionnages, des revisionnages, des lectures et des relectures répétées, de manière à ce que, dans un premier temps, l'histoire soit comprise, et dans un deuxième temps, on puisse travailler, une fois l'histoire comprise, sur les notions qu'on s'est donné comme objectif de traiter dans la séance. Dans le cas du génie mécanique, on a une différence très forte, puisque dans ce cas-là, ce qui compte, c'est pas tant l'écrit sert juste à codifier les réponses, c'est le visuel, c'est-à-dire repérer les liens entre les pièces et le faire de manière visuelle. C'est pour ça qu'on a un déploiement de façon de voir l'objet de manière différente. Les enseignants de génie mécanique expliquent que les élèves ont de plus en plus de mal à faire le lien entre l'abstrait du dessin et le concret de la réalité. Et que de plus en plus, ils sont obligés de passer par des médiations comme la représentation 3 dimensions, par exemple, qui va faire un lien plus explicite entre la représentation 2D que vous avez sur vos feuilles, qui est quand même compliquée à comprendre, hein, les enseignants nous expliquent qu'auparavant, on faisait beaucoup plus de cours de dessin industriel et qu'il y avait une culture très forte du dessin, qui posait moins de problèmes derrière en termes de lien avec les objets du réel, alors qu'aujourd'hui, cette culture étant moins importante, on travaille des dispositifs, des multiplications de visibilité de l'objet, l'objet réel, l'objet 3D, l'objet 2D, etc., l'écrit étant là pour codifier les réponses. Dans le cadre de l'atelier, c'est là qu'on est probablement sur les modalités les plus complexes et les plus articulées, puisqu'il y a du geste, bien sûr, faut démonter, remonter, mais il faut aussi savoir naviguer dans la revue technique automobile, que vous avez des extraits qu'on vous a fait passer. Vous voyez que vous avez du schéma, des tableaux, du texte, de la photo. Donc c'est un objet très très compliqué sur le plan multimodal, ce qu'on appelle, hein. Et ils doivent faire des liens entre des éléments de gamme de démontage et de remontage qu'ils ont là-dedans, ils doivent trouver des valeurs de serrage, etc. Donc bref, là on a une articulation de modalités différentes, sachant qu'in fine l'objectif c'est la capacité à monter, vérifier et remonter, quoi. D'accord ? Donc on a, du point de vue didactique, des ruptures différentes du niveau de surface. Puisqu'au niveau de surface, on a une très forte identité entre français et génie mécanique, mais sur le plan didactique, on est en rupture forte, puisque écrit d'un côté, visuel de l'autre. Et l'atelier, lui, ayant les ruptures très marquées avec le français, un peu moins avec le génie mécanique. Donc on voit bien que derrière ça, il y a des... Moi, la question qu'on se pose, nous, derrière ça, c'est qu'est-ce que perçoivent les élèves de ces ruptures, quoi. Est-ce que un enseignement de français et de génie mécanique, parce que les traits de surface sont relativement similaires, il va être vécu de la même façon? Où est-ce que les élèves sont en capacité, on n'a pas la réponse hein, pour le moment, de voir les différences aussi sur le plan plus implicite et didactique.
Qu'est-ce que les élèves perçoivent et qu'est-ce que les enseignants explicitent de ces ruptures aussi? C'est-à-dire qu'est-ce que les enseignants perçoivent? C'est-à-dire que l'usage du vidéo proche, enfin nous on s'est beaucoup arrêté sur l'usage du vidéo proche, au fond on s'est rendu compte qu'on n'utilisait pas forcément le vidéo proche comme on croyait l'utiliser. C'est-à-dire qu'on l'utilisait... on n'utilisait pas comme le prof de techno qui lui projette, donc c'est bien à savoir qu'il projette, et c'est bien là-dessus qu'on travaille. Alors qu'au fond, dans la classe de français, le vidéo proche est presque un prétexte au sens premier du mot, hein, doit amener à autre chose. Et ça, il faut se le dire. Est-ce que c'est nécessaire de l'expliquer aux élèves? Est-ce que, enfin, toutes ces questions qu'on n'a pas encore élucidées.
Mais voilà, vous voyez, simples photos comme ça, même si elles sont caricaturales, en tout cas, nous font poser plein de questions sur ce que vivent les élèves comme transition.
On commence, c'est-à-dire que suite au film, on va interviewer des binômes qui ont été filmés, et du coup, on les fait réagir, on les interviewe. C'est la phase en cours.
Merci. Par rapport à la perception des élèves au niveau sur les cours, moi, je remarque une très grosse différence dans la consigne. C'est qu'on va avoir dans la consigne de l'atelier... l'usage de l'impératif, voilà, déposer les amortisseurs, échanger les amortisseurs, échanger les pneus, faire ça, faire ça, faire ça. Donc l'élève, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il valide. Alors qu'en français, on va avoir des questions qui sont pas, qui ont pas du tout la même tournure. On va avoir en quoi choisir le point de vue d'un homard pour raconter une histoire prête à sourire. Donc en fait, on va lui demander beaucoup plus de réflexion et d'analyse et que d'application, quoi.
En tout cas, on va lui demander, parce que vous avez vu déposer tout ça, là. Moi, je vous donne la voiture demain et vous me faites le travail.
On est là. Mais la rupture, elle est là.
Et vous allez voir que là, il y a de la conceptualisation derrière. Il faut comprendre comment ça marche, etc., pour pouvoir faire un minima. Donc, c'est des formes de conceptualisation différentes, de rentrer dans la conceptualisation.
Mais je veux dire, après, on parlait d'élèves, de 8 à 9, il va faire une heure de court-métrage, et puis des 6 autres heures, il n'est pas en atelier. Effectivement, ça peut... Ça, c'est... Ouais, il faut le prendre en compte, ça, quand on fait...
Le problème, c'est que nous, on n'a pas vu actuellement dans les organisations pédagogiques d'ensemble une prise en compte de ces problèmes-là, quoi. C'est-à-dire que tout se passe comme si les formations fonctionnaient bien sur le plan des dispositifs individuels, enfin fonctionnaient bien. Disons qu'il y a des problèmes, mais que institutionnellement ça fonctionne, quoi, c'est fait. Mais par contre, aucunement dans la formation, peu, on va dire, en tout cas nous on en a vu peu, mais peut-être qu'ailleurs ça se fait beaucoup mieux. Il y a une vraie réflexion et une prise en charge sur ces problématiques-là.
Moi, si je peux ajouter, dans les ruptures, il y a deux éléments qui me semblent importants au lycée professionnel. C'est le côté, sensibilité des élèves, plus qu'ils sont capables de travailler pour un prof et pas pour un autre. Ouais. Donc, je pense que ça doit aussi jouer dans les ruptures. Et puis, l'heure de la journée. On a beaucoup d'élèves qui ont des modes de vie un peu spéciaux. Ouais. Et donc, à 8 heures, c'est pas possible. À 9 heures, c'est voilà. 11 heures, ils ont faim parce qu'ils ont pas mangé le matin. Enfin, bon, il y a plein de
choses.
Je pense que ça joue aussi dans
les... Et puis, la mise au travail, quand on a qu'une heure, cette mise au travail doit être beaucoup plus contrainte que quand on a...
Quand ils ont fait la fête toute la nuit, je pense que...
Bah, par exemple, la mise au travail à l'atelier... c'est une heure. Une heure complète, on sort les voitures, on installe les voitures, etc. Évidemment, en français, on ne peut pas prendre une heure pour mettre au travail. Hein. Ça, c'est pas possible. Ouais. Alors, juste pour terminer, donc, des ruptures et des continuités à des niveaux différents, on en a parlé. Hein. Organisation matérielle et sociale, proximité des enseignements en classe, rupture fort avec l'atelier. Sur le plan du milieu didactique, dans le cas du français, primat de l'étude d'œuvre écrite, dans le cas du génie mécanique d'agencement de pièces ou de manipulation d'organes mécaniques dans le cas de l'atelier. Et puis une variation des modalités sémiotiques de transmission avec des parts différentes de l'écrit, du visuel, de l'oral, du gestuel et une complexité des modalités dans l'atelier comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'une continuité très forte qui nous interroge beaucoup, hein, enfin on a tous pris conscience collectivement de cette affaire-là qui est quand même une sacrée question, c'est-à-dire que dans les trois situations, on a des stratégies très fortes de limitation et de cadrage de l'écrit. C'est-à-dire que dans les trois cas, si vous regardez les feuilles que vous avez, mais vous voyez que on cadre très fortement et on limite très fortement la part d'écriture dans chaque cas. Dans le cas du français, ben, c'est des questions à choix multiples sur la compréhension. On ne demande pas d'écrire quelque chose, hein, vous regarderez la feuille. Ensuite, on a des champs un petit peu plus longs sur ce qui est drôle. On a deux lignes. Et puis le champ le plus ouvert, c'est l'humour noir. Mais voilà.
Mais qui sera une définition.
Une définition. Voilà. Et l'enseignante l'explique bien en disant que là, elle a des gens à faire à des gens qui écrivent très mal, hein, et qui donc. C'est la catastrophe si on demande d'écrire trop longtemps. Dans le cas du génie mécanique, c'est intéressant parce que l'enseignant nous a dit, je ne sais pas si j'ai son... Non, je ne l'aurai pas là. Il nous a dit, mais ça sert à quoi que je leur fasse faire de la mise en page et de l'écriture, sachant que le jour de l'examen, ils auront déjà cette mise en page, ils auront juste à remplir les cases. D'accord ? Et à l'atelier, on nous a dit, de toute façon, l'inspection nous dit, ce n'est pas la peine qu'ils écrivent trop en atelier, ils écrivent déjà beaucoup par ailleurs. Donc il y a aujourd'hui, je pense que c'est vraiment des effets aussi de dispositifs qui fonctionnent les uns parallèlement aux autres, il y a finalement une méconnaissance de la part d'écriture qu'il y a chez le voisin, quoi.
Et du coup une stratégie d'évitement de l'écrit dans toutes les disciplines.
Alors le vécu des élèves, c'est quelque chose qu'on commence tout juste à travailler. Bon, je vous donne juste une petite citation par rapport à un binôme d'élèves. Oui.
Les élèves, on voit bien. Mais même des enseignants qui du coup essayent de trouver des solutions pour que l'écrit soit le plus efficace possible dans le temps le plus bref possible. Et du coup, ça conduit à... Et attention, on n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout sur dire c'est bien, c'est pas bien, à la recherche de bons gestes professionnels. On n'est pas du tout dans cette pensée-là. Mais on constate qu'inévitablement, comme nos élèves sont en difficulté, comme on n'a pas de temps et comme on a des objets d'études multiples, comme on a de la multimodalité sans arrêt, bah, la part de l'écrit est de plus en plus...
Mais je pense que l'institution a quelque chose à voir avec ce problème-là aussi. Il y a des inspections qui vont relayer aussi ces messages. Et encore une fois, je serai inspecteur, probablement je ferai la même chose. Je serai prof, je ferai la même chose. On n'est pas là pour essayer de traquer des dysfonctionnements individuels. On est vraiment là pour comprendre des logiques de système, quoi. Alors voilà, donc ce petit extrait pour vous montrer comment des élèves peuvent vivre des transitions. Pardon.
Je vais juste rebondir sur ce que vous dites. On est dans une stratégie de texto, c'est-à-dire que inconsciemment, on prépare les jeunes à bien rédiger leur texto et à cibler le bon message qu'ils vont envoyer. On a quelque part réussi leur insertion sociale.
On peut en discuter quand même. oui, donc juste un petit extrait. Voilà, on commence à questionner les élèves sur la façon dont ils vivent les transitions. C'est pas simple, hein, parce que eux-mêmes ont pas forcément bien conscience de tout ce qui se passe, etc. Donc voilà, vous voyez, hein, bon, un petit extrait. C'est vraiment histoire d'ouvrir ce qu'on va faire maintenant. Hein. Qu'est-ce que vous faites en général en français? C'est souvent des trucs comme ça. Donc il avait expliqué juste avant que on avait eu. C'est après. Il le dit. Hein. J'aime pas trop, mais en fait ça fait passer le temps, c'est pas mal. Qu'est-ce que parfois vous faites des choses qui ont un lien avec l'enseignement pro, enfin avec les matières de l'enseignement pro? Ouais, avec la mécanique, la génie mécanique. Des fois on travaille des trucs qui ont un rapport, comme on a vu une histoire, il y avait un serpent dans un moteur. C'était une couleuvre, je crois. Non, une vipère. Une vipère, ouais. Des trucs comme ça, mais pas vraiment dans la mécanique. On survole. Par exemple, vous n'allez pas travailler sur des documents qui parlent de moteur et tout. Non, elle connaît pas du tout, la prof. Donc, donc parfois la thématique est proche. Oui, voilà, c'est pour nous faire plaisir plutôt. Et ça vous fait plaisir? Ouais, on est un lycée automobile quand même. Donc, voilà, c'est une première façon. Il y en aura probablement d'autres, etc. Mais voilà, ça nous donne à voir aussi comment les élèves, eux, perçoivent ces transitions. Donc, manifestement, ces deux-là se disent, c'est un petit peu ça ce que vous disiez. On est dans un relâchement par rapport aux matières professionnelles qui nous ouvrent sur autre chose. Et ils le disent avant, ils disent c'est intéressant parce que ça nous ouvre sur autre chose. Bon, ceci dit, des fois, c'est chiant, on nous demande d'écrire, quoi. Ça, ils le disent beaucoup, hein. Et dès que c'est noté, écrit, alors là, c'est le blocage, quoi. Et ça, on l'a déjà repéré sur 2-3 binômes, hein. Le point clé, là, c'est l'écriture, quoi. La longue lecture et l'écriture. Donc, ça rebondit sur ce que disent les profs, hein. Ils ont raison. Ils ont du mal à lire longuement et à écrire, quoi. Mais bon, est-ce que le serpent doit se prendre la queue pour aller voir toujours moins d'écrit? C'est toujours la question.
Le serpent dans le moteur, tu crois? Ouais.
Alors, bon, finalement, la question qu'on peut poser, quel accompagnement des transitions? Qu'est-ce qui prend en charge ça aujourd'hui? Nous, on a tendance à dire très très peu de choses et qu'il y a probablement beaucoup à travailler sur cet aspect-là. Peut-être vous allez nous dire que dans vos établissements, ça fonctionne mieux, il y a une prise en charge. Et finalement, on pourrait se dire qu'il y a deux façons limites de gérer ça. Soit on dit il faut des ruptures fortes parce que c'est structurant. Ça, c'est la logique de la classification forte de Bernstein qui pourrait dire plus les identités disciplinaires vont être marquées, explicitées, etc., mieux ça va marcher parce que chaque élève va savoir dans quel contexte il rentre, avec quel reglet du jeu, et plus elles seront explicites. Et de fait, on peut envisager les choses comme ça. Mais on n'aura pas résolu du coup le problème du transfert, puisqu'on aura des tendances à développer que ça fonctionne mieux dans chacun des dispositifs. Mais la problématique de comment on intègre les connaissances qui viennent de différents dispositifs, ce sera à l'élève de gérer ça tout seul. Et on sait que ça pose des problèmes sur le plan cognitif. Toutes les études le montrent. Donc, à l'inverse, on peut aller vers une stratégie d'assouplissement des ruptures. En disant, par exemple, plutôt que de travailler, comme vous le disiez, en classe, on va favoriser des modes de travail en français, et c'est tout à fait possible, beaucoup plus proches de l'atelier, qui vont permettre ces temps d'investissement, de relâchement, etc., qui poseront beaucoup moins de problèmes, puisqu'ils seront légitimés d'une certaine façon. Alors que dans le fonctionnement en classe, pendant une heure, l'intensité de tout le monde en même temps sur un même objet. Dans le cas du binôme, le prof fait le tour des binômes, les binômes travaillent, se relâchent un peu, retravaillent, etc. Question, hein, c'est ouvert, je sais pas. Hein.
Une collègue en anglais a mené un projet comme ça sur Grenoble.
Donc et ça marchait bien après.
Et ça marchait d'après.
Voilà. Alors, est-ce qu'il faut faire ça? Ou alors, est-ce qu'il faut encore faire autre chose? C'est-à-dire avoir des ruptures fortes et créer des dispositifs type accompagnement personnalisé où c'est là qu'on va travailler les mises en lien. Bref, il y a des possibilités et des ouvertures pour travailler là-dessus. Mais Nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que c'est pas fait, pas beaucoup fait aujourd'hui, et que ça nous semble être important aussi pour comprendre pourquoi des élèves qui réussissaient parfois en primaire, quand ils passent au collège, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec ces logiques de compartimentation des savoirs, de règles du jeu différentes et de difficulté des individus à fonctionner de façon extrêmement plastique d'un contexte à l'autre. Alors voilà, je vous mets juste là pour terminer les perspectives qu'on a de travailler maintenant sur les vidéos de façon plus fine, de travailler donc sur les transitions vécues par les élèves, de nous intéresser plus particulièrement à cette littératie professionnelle, notamment la revue technique automobile, hein, comment elle est organisée, etc. On s'est déjà aperçu qu'une hypothèse qu'on avait est fausse, c'est-à-dire qu'on disait, il nous semble que cet objet peut être un objet qu'on retrouve dans les stages. Non, pas beaucoup. Dans les stages, soit ça fonctionne à l'oral, soit ça fonctionne avec des grosses bases de données constructeurs via des interfaces informatiques, mais pas avec ce type d'objet-là. Par contre, on va retrouver des graphiques, des multimodalités aussi complexes que ça. Et puis la transition avec les stages, hein, donc ici on voit aussi qu'il y a des ruptures qui peuvent être très fortes, où tout d'un coup on nous demande, ce qu'il explique, là, par exemple, on avait en TP des petits trucs comme la courroie, on devait l'enlever, c'est tout. Dans le stage, il y avait plus de trucs, il fallait enlever la courroie, la pompe à eau et tout ça, il y avait plus d'éléments à enlever pendant le stage. Donc voilà, il y a aussi des ruptures qu'il faut qu'on travaille de ce point de vue-là. Et puis, on a commencé à travailler avec les enseignants pour voir comment est-ce qu'on pourrait s'appuyer sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir des projets pédagogiques interdisciplinaires où on pourrait travailler ces questions de mise en collaboration des enseignants. Voilà. Donc, voilà, on en est là, c'est des résultats intermédiaires, mais ça nous semblait intéressant de pouvoir les partager avec vous.
Là, vous parlez, vous êtes dans un lycée où il n'y a qu'un seul métier.
Oui.
Lorsque nous sommes sur des lycées où il y a plusieurs métiers,
oui.
Je crois que les problématiques sont différentes, encore différentes,
ouais, tout à fait, ouais.
Pour l'enseignement général, qui va, un professeur de français ou de langue ou de maths, va intervenir sur plusieurs métiers et ça va être extrêmement complexe.
Ah bah ouais.
D'arriver à faire des points de transition, de lien avec les matières professionnelles. Mmh. Et là, on n'a pas encore de réponse dans les recherches. Est-ce qu'il faut spécialiser l'enseignement général à un métier ? Est-ce que le fait d'avoir plusieurs métiers peut amener aussi une richesse aux élèves ?
Ouais, mais vous avez raison, hein, c'est des questions ouvertes. Non. Oui. Bah, déjà, dans cet établissement-là, c'est un peu le cas, parce qu'il n'y a pas simplement l'automobile, il y a les routiers, et donc des fois, les enseignants nous expliquent qu'ils se retrouvent avec un bout de classe de routiers, dans la même classe, hein, de routiers de maintenance automobile et de maintenance industrielle ou de carrosserie, par exemple. C'est pas
mais
le même métier.
Il y a plusieurs échelles de réponses. Peut-être que la question de la connaissance déjà des autres milieux, pour reprendre la terminologie, des autres milieux professionnels, c'est déjà un lieu de transition au niveau des ruptures. C'est-à-dire savoir vraiment ce que fait le collègue et la manière dont il envisage son apprentissage, c'est déjà ça peut déjà établir des ponts, quoi. Alors après, comment l'institution organise ça, comment en formation pour les enseignants on le valorise, la question reste posée.
Encore une fois, hein, c'est un cas particulier, une étude de cas, prenez-la pour ce qu'elle est. Il n'y a pas du tout de prétention à être exhaustif, c'est juste des portes d'entrée pour questionner des choses, quoi. Voilà. On est bien conscient que ça se passe différemment ailleurs, mais peut-être que ça se passe pas très différemment.